Exacto.
انترفيو. السلام ومرحبا بكل مستمعينا ما كنتم، مرحبا بكم في برنامجكم اكسبريسو. حاضر معنا السيد إريك دوكورنو اللي هو سي او مجمع بيير فابر في العالم، حاضر معنا في تونس، اغتنمنا فرصه وجوده لحوار لبرنامجكم اكسبريسو. Bonjour, bienvenue à vous en Tunisie sur les ondes d'Express FM.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Merci d'accepter notre invitation. Alors, pouvez-vous nous dire en quelques mots, quelques chiffres, nous parler du groupe Pierre Fabre ?
Alors, Pierre Fabre, c'est une entreprise qui fait 2,5 milliards de chiffre d'affaires, donc qui est présente à la fois dans la dermocosmétique, donc avec des marques qui sont assez connues en Tunisie, comme Aven ou Ducré, par exemple, René Furterer aussi, et puis du médicament, par ailleurs. Et en Tunisie, donc, nous sommes présents depuis une trentaine d'années, avec un partenariat encore plus établi depuis 2007 avec la CIFAT, donc avec laquelle nous avons une usine en commun à Tunis. Donc voilà en quelques mots ce qu'est Pierre Fabre aujourd'hui.
C'est un PPP.
C'est un partenariat public-privé, oui, dans le sens où c'est une société commune dont nous détenons de 65% des parts et nous fabriquons donc ensemble des médicaments qui sont destinés à la Tunisie et à l'Afrique subsaharienne.
Alors vous fêtez vos 60 ans. Et alors, quel est le secret d'une longévité d'un groupe ? C'est toujours intéressant de voir comment on peut pérenniser un groupe sur la durée.
Alors, je crois que le premier secret de longévité d'une entreprise, c'est d'abord qu'elle soit assise sur des valeurs qui soient reconnaissables par les patients et les consommateurs en ce qui nous concerne, et puis aussi par ses salariés. Et ce qui fait la force de cette entreprise, c'est qu'elle est héritière, de par son fondateur, donc M. Pierre Fabre, de valeurs très très fortes dans le domaine de la naturalité, de l'innovation aussi. Et ce sont des piliers forts pour construire. Et puis on a aussi une originalité dans le contexte français. On est la seule entreprise qui soit détenue majoritairement par une fondation à but humanitaire. C'est la fondation Pierre Fabre, donc qui détient 86% des actions. Ce qui fait que nous ne sommes pas une société publique, on n'est pas une société cotée, donc on est une société privée, mais dont les dividendes vont à 86% à des actions humanitaires qui sont menées en Afrique et en Asie du Sud-Est. Et ça, c'est une originalité qui contribue aussi à la pérennité de l'entreprise.
Et pourquoi cette idée, justement ? C'est la question que je voulais aborder. En parlant de pérennité, aujourd'hui, on sait qu'en Tunisie, par exemple, on a pas mal de grands groupes qui arrivent à maturité, qui pensent à la succession, la pérennisation de leur entreprise. Alors aujourd'hui, ça peut être un modèle, même si c'est unique en France. Si c'était peut-être le modèle parfait, il y aurait peut-être eu d'autres groupes qui auraient fait pareil.
Alors, pour répondre très très directement à votre question, c'est vrai que c'était dû aussi à une situation particulière de M. Pierre Fabre, qui n'avait pas d'enfant. Donc en fait, qui a choisi aussi cette structure parce qu'il n'avait pas d'enfant. Donc il n'avait pas la question de l'héritage direct de ses enfants qui se posait. Néanmoins, je pense que s'il l'a fait, c'est deux éléments à prendre en compte. Le premier, c'est que la structure est originale, mais nos métiers sont originaux aussi. Parce qu'en fait, on est également une des seules entreprises, en tout cas de cette taille, hein. Il n'y en a qu'une autre dans le monde, mais qui est 100 fois plus grosse que nous, qui a cette particularité d'être présente dans deux univers très différents, le médicament et la dermocosmétique. Et quand dans une entreprise, vous recevez beaucoup de chefs d'entreprise à ce micro, quand dans une même entreprise, vous avez deux business models aussi différents, c'est très compliqué d'envisager l'avenir. Et ce que voulait M. Fabre, c'est que le plus longtemps possible, ça continue comme ça. C'est-à-dire avec ces deux business, en le mettant à l'abri d'une fondation, finalement, il savait que c'était plus possible, puisque la fondation a des exigences, notamment en termes de dividendes, qui sont différentes de celles qu'auraient eu des actionnaires privés. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il avait une très grosse conscience, je pense, de ce qu'il appelait la chance qu'il avait eue dans sa vie, et qu'il considérait que quand on avait eu de la chance dans sa vie, ce qui était la sienne, d'être devenu un entrepreneur, d'avoir correctement gagner sa vie, etc., eh bien on devait rendre une partie de cette chance à l'humanité, aux autres. Et en le faisant à travers une fondation reconnue d'utilité publique, il permet ça, puisque nos dividendes vont servir à des actions humanitaires. Donc il y avait ces deux raisons pour lesquelles il a fait, en fait, cette fondation et cette gouvernance particulière.
C'est 86% qui sont reversés, des bénéfices qui sont reversés à la fondation.
Exactement. Quand on délivre 100 dinars de dividendes, eh bien on donne 86 dinars qui vont directement en fait à la fondation Pierre Fabre pour mener des actions qui n'ont aucun rapport avec la vie de l'entreprise, qui ne sont pas des réinvestissements pour l'entreprise, mais qui vont complètement à des objectifs humanitaires.
Alors, Justement, en deux mots, quelles sont ses missions? Ça peut inspirer d'autres, parce qu'en général, une entreprise, elle pense à faire toujours des choses, même quand dans le cadre de son RSE, parfois c'est souvent lié au business, au secteur dans lequel ils sont en activité. Alors, quelles sont les missions que vous imposez ou...
dans la fondation. Alors, la fondation, je vais insister sur trois missions. Elle en a cinq, mais je vais insister peut-être sur trois qui sont les plus importantes. La première, c'est de contribuer à la formation des professionnels de santé. Vous avez dans un certain nombre de pays d'Afrique une absence de laboratoire de contrôle qualité du médicament, par exemple. Et ce que fait la fondation, c'est qu'elle va former les pharmaciens qui vont aller dans ces laboratoires, donc elle va payer leur formation. Et il y a un contrat qui est passé entre le pays, le gouvernement français et la fondation pour que le gouvernement en question, du pays dont on parle, en fait s'engage à avoir un vrai laboratoire de contrôle qualité du médicament indépendant et qui puisse donc servir à la santé de la population, parce qu'il va contrôler que les médicaments qui rentrent dans le pays sont des médicaments qui ne sont pas des médicaments contrefaits, qui sont des médicaments qui correspondent vraiment à ce que le pays achète. Donc ça, c'est le premier axe, formation de professionnels du médicament. Le deuxième axe, c'est qu'elle intervient dans certaines maladies. La drépanocytose, qui est une maladie du sang, qui est endémique en Afrique, mais aussi d'albinisme, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'albinos en Afrique et que c'est une pathologie donc, de la peau qui est très invalidante et qui fait que les personnes qui en sont atteintes sont rejetées par le village ou par leur communauté ou par leur famille. Et donc, ce que fait la Fondation, c'est qu'elle les aide à trouver une place dans la société. Elle leur confie des missions, comme par exemple de fabriquer des produits solaires, des protections solaires. Eux-mêmes en sont des gros consommateurs. Et avec ce qu'ils ne vont pas consommer pour eux-mêmes, eh bien, en fait, ils vont revendre le reste et ça va leur faire un revenu. Et puis le troisième axe que je présente, c'est la e-health, parce que pareil, en Afrique, du fait de l'absence d'un certain nombre de médecins dans certaines spécialités, eh bien la e-health, c'est une solution formidable. Et donc la fondation repère des sociétés qui sont investies dans la e-health en Afrique et les subventionne, hein, leur aide à faire leur POC, à aller jusqu'à au développement en fait, de leur programme, pour contribuer à l'émergence d'une e-health en Afrique, qui est une grosse solution en fait, sur des difficultés qu'on peut connaître du fait du peu de médecins qui peuvent être présents dans certaines spécialités, dans certains pays. Bah, trois exemples de ce que fait la Fondation.
Vous le feriez en Tunisie ?
On ne le ferait pas en Tunisie, parce que je pense que la Tunisie a un système de santé qui est organisé, qui est soutenable, si vous voulez. Vous avez un budget de l'assurance maladie, vous avez des hôpitaux, vous avez des fonds qui interviennent de la part du gouvernement pour aider au développement justement de start-up dans le domaine de la santé. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui sont organisées en Tunisie. Mais vous savez...
On n'a jamais assez.
Bien sûr, mais vous savez aussi qu'il y a des pays qui sont en besoin réel parce qu'il n'y a rien. Hein. Donc la Tunisie, je pense, a fait déjà beaucoup de choses au niveau gouvernemental.
Très bien. Alors, justement, l'innovation, ça coûte cher.
L'innovation, ça coûte cher. Donc, pour une entreprise comme Perfam.
Voilà, là, j'ai envie de profiter de vous, votre expérience, mais extrapoler, même sur d'autres secteurs. L'innovation, quand on est dans l'innovation, ça coûte cher, c'est beaucoup d'investissement. Alors, comment on peut y faire face? Et at the end of the day, parce que c'est du business, donc comment bien gagner sa vie, même en ayant ces investissements, en étant sur un business basé sur l'innovation, en fait. Voilà.
Alors, nous, ça représente 200 millions d'euros par an, donc qui sont répartis entre le médicament et la dermocosmétique. Donc, c'est des chiffres importants, hein, sur 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Mais c'est nécessaire parce que si dans nos métiers, on n'investit pas dans l'innovation, on disparaît. On n'apporte plus, on n'est plus capable de créer, on n'est plus capable de lancer de nouveaux médicaments, de produits dermocosmétiques. Donc, finalement, si vous voulez, on n'invente pas son avenir. Hein, donc, c'est nécessaire de le faire. Comment on le finance? Ben, quand on a notre structure actionnariale, c'est-à-dire la fondation a eu à 86% et les salariés de Pierre Fabre à 9,5%, la seule façon de le financer, c'est nos propres revenus et notre propre marge. Donc on ne peut compter que sur nous-mêmes, si vous voulez, pour le financer. Donc moi, je n'ai pas de recette supérieure à celle-là. Hein. De toute façon, pour financer l'innovation, vous allez soit trouver des financements externes par les banques ou quand vous êtes coté par les marchés, soit vous comptez sur vos propres ressources pour le faire. Et c'est ce que nous faisons chez Pierre Fabre.
Alors pour revenir, puisque vous êtes revenu sur ça, alors comment est gérée la fondation? Parce que la fondation est investisseur, parce qu'ils sont à hauteur de 86%. Donc eux, comment ils prennent les décisions? Qui gère cette fondation? Puisqu'il n'y a pas d'héritier. Enfin, c'est ça ce qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, on a eu ce débat sur bon, y a ce qui ressemblerait aux fondations en Tunisie, l'Ahbès, etc. Je dis en Tunisie, on en a parlé. Donc c'est un débat intéressant au niveau business. Donc qui gère cette fondation? Qui décide ensuite de réinvestir aussi pour...
Alors, pour que la fondation conserve son statut d'utilité publique, il faut en fait qu'elle ne gère pas l'entreprise. Donc la fondation n'intervient jamais sur les décisions de l'entreprise. Elle est majoritaire, mais son statut légal dans le droit français fait qu'elle ne peut pas intervenir sur la gestion de l'entreprise. Donc en fait, la fondation, si vous voulez, les subsides qu'elle reçoit de la part de Pierre Fabre ou d'autres financeurs, en fait, ne lui servent que à mener ses actions humanitaires. Et nous, pour l'entreprise, nous avons notre propre board, hein, notre propre conseil d'administration qui prend les décisions avec le directeur général que je suis pour l'entreprise, mais indépendamment de la fondation. Donc la fondation, elle a un rôle de pérennité du capital de l'entreprise. Donc elle est là pour solidifier le capital de l'entreprise dans le long terme, mais elle ne prend pas de décision sur la gestion de l'entreprise. Et donc ses propres décisions, eh bien, elle les prend avec son conseil d'administration et avec aussi son conseil scientifique, puisqu'elle intervient dans des domaines médicaux et que donc elle est épaulée par le conseil scientifique. Et puis aussi, elle reçoit un soutien important en termes de stratégie de la part du ministère des Affaires étrangères français, qui est représenté par le directeur de l'Afrique et du Moyen-Orient du Quai d'Orsay français.
Alors pour terminer, c'est par là où j'aurais pu commencer. Quel bon vent vous amène aujourd'hui? Je sais qu'il y a des investissements, vous en avez parlé tout à l'heure. Alors quelle est la suite pour vous du développement de Pierre Fabre, des activités Pierre Fabre en Tunisie? Alors est-ce qu'il y a des investissements prévus? Je sais que vous avez eu l'occasion de rencontrer pas mal de décideurs de haut niveau. Donc est-ce que c'est par curiosité, est-ce que c'est pour entretenir cette relation historique, hein, Pierre Fabre-Tunisie, qui s'exprime dans un PPP d'ailleurs? Ou alors, il y a des investissements prévus.
Alors,
je cherche clairement ce coup.
Au moins, vous le dites. Alors, clairement, donc, je réponds aussi clairement à la question. Le Pierre Fabre Tunisie, c'est un peu moins de 130 collaborateurs. C'est une tête de pont pour nous, pour l'Afrique subsaharienne. Il y a cette usine. C'est une génération globale de revenus qui est d'à peu près 50 millions de dirhams, donc sur la Tunisie. Donc si vous voulez, c'est important pour nous, hein. Et c'est ce chiffre d'affaires et cette activité que l'on génère, en fait, on doit effectivement l'approcher dans l'avenir. Et nous, notre objectif, pour être très clair, hein, c'est de passer à 7 millions d'unités que l'on fabrique aujourd'hui, donc sur cette usine, à 10 millions à l'horizon 2025. Donc pour faire ça, effectivement, il faut investir. Nous co-investissons avec la CIFAT, et l'essentiel de ce voyage était consacré à ça. On co-investit avec la CIFAT. Il faut faire un certain nombre d'investissements pour être capable de produire plus, de produire aussi au standard qualité. Nous, notre rêve, c'est qu'on soit même capable de réexporter des produits fabriqués en Tunisie vers l'Europe et notamment vers la France. Hein, donc, et ça fait partie des sujets de voyage que j'avais à cette occasion. Et puis aussi, eh bien, de travailler avec les équipes. Vous avez parlé d'innovation, c'est très important effectivement pour nous. On a beaucoup de chantiers d'innovation aujourd'hui, de produits qui vont être en lancement, notamment je pense à un produit dans la récidive du cancer du sein par exemple. On a également tout ce que l'on fait en termes de prévention, donc qui est important, la caravane de prévention du cancer du sein. On va attaquer Octobre Rose dans quelques jours. Et donc tout ça, ça contribue à notre positionnement en Tunisie. Et ce que je voudrais peut-être illustrer aussi, c'est que pour nous, être présent dans un pays comme la Tunisie, ce n'est pas simplement un comptoir de vente. Hein. Pierre Fabre a l'intégralité de sa production en France, à l'exception de deux usines hors de France. Une qui est au Brésil pour une marque qui s'appelle Daro, qui ne sort pas du Brésil, qui est une marque dermocosmétique qu'on avait rachetée en 2005, et l'autre en Tunisie, c'est tout. Donc si vous voulez, et donc notre seule usine médicaments en dehors de France, elle est en Tunisie. Donc la Tunisie, c'est un pays très à part pour nous, très dans notre cœur, et donc venir visiter les équipes après 4 ans de confinement et autres difficultés à voyager, c'est remettre l'accent sur tout ça, sur ces investissements à venir, effectivement, et sur notre partenariat fort avec l'État tunisien.
Si j'ai bien suivi le chiffre, donc c'est une augmentation de près de 50% de la capacité de production,
c'est plutôt 30, mais si on arrive à 50, on en sera aussi très heureux.
Ah ben, c'est pour le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup.
Merci d'avoir
accueil. Accepté de répondre à nos questions. Je rappelle Eric Ducourneau, qui est CEO de Pierre Fabre. Voilà, merci à vous.
Merci beaucoup.